Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau livre dans la parole de Dieu. Et à notre habitude, nous alternons entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour nous, il n'y a pas de différence. Tout est la parole de Dieu, tout est la vérité sur laquelle nous pouvons bâtir nos vies. Nous arrivons dans les livres des poésies où on parle des fois des livres de sagesse. Il y a un terme savant, c'est les livres sapientaux. La sapience, c'est l'homo sapiens, c'est la sagesse. Et donc, c'est les livres qui parlent de sagesse. Et aujourd'hui, on va entamer le livre qui s'appelle l'Ecclésiaste. Alors, je vous préviens, c'est un livre qui est d'une actualité brûlante. Il a été écrit, on pense, et on est à peu près sûr, par le roi Salomon. Donc ça fait pratiquement 3000 ans qu'il a été écrit. Et ce qui est surprenant quand on l'étudie, c'est de voir qu'en fait, il est toujours, encore une fois, d'une actualité impressionnante. En français, on a le proverbe « plus ça change et plus c'est la même chose ». Et c'est vrai que bien des fois, on s'aperçoit que ce qu'on croit être du changement, c'est du retour en arrière, ou c'est des choses qui ne vont pas amener grand-chose. Et donc, ce livre écrit par ce roi Salomon, on pense que ça a été, il l'a écrit à la fin de sa vie. Et d'entrée, il nous donne le sujet de sa réflexion. On va lire ensemble le premier chapitre. C'est court, mais il y a beaucoup de choses à considérer. Je lis dans la version à la colombe, c'est page 654, si on vous a donné une Bible à la colombe. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste à toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé. Et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être porté au compte. J'ai dit en mon cœur, ainsi moi, j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas, et plus on a de science, plus on a de tourments. Amen. J'espère que les mamans ne sont pas trop déprimées, que les autres non plus. L'Ecclésiaste, c'est une traduction latine, le titre en hébreu c'était le Coëlette. C'était quelqu'un qui parlait à une assemblée, quelqu'un qui s'adressait à une foule. Et il est dit que c'était le fils de David, un roi à Jérusalem. Et la personne qui correspond le mieux à cette description, c'est bien sûr le roi Salomon. Vous vous souvenez que David avait péché avec Bathsheba, ils avaient eu une relation adultère, et il en était né un enfant qui était mort, très jeune. Et Dieu leur avait donné la grâce d'avoir un autre enfant qui était le Salomon. Et c'est lui qui a succédé à son père. Il est arrivé à une époque où, grâce au roi David, la situation politique, économique d'Israël était au plus haut. La nation était en paix avec ses voisins. Elle était forte économiquement, militairement. Et le roi Salomon a été probablement l'homme le plus riche de l'histoire, ou l'un des plus riches de l'histoire. Vous pouvez vous souvenez sans doute que Dieu lui avait offert de lui demander quelque chose et qu'il l'accomplirait. Et de toutes les choses que Salomon aurait pu demander, il n'en avait demandé qu'une, la sagesse. Et Dieu, pour marquer son approbation, lui a dit, tu es bien tombé, tu as trouvé la bonne réponse, et en cadeau, je vais tout te donner. La beauté, la richesse, la paix, l'amour. Et donc cet homme, Salomon, il a été comblé comme personne n'a été comblé auparavant et depuis. Il avait, on a dit, la richesse de Bill Gates et de tous les hommes les plus riches auxquels vous pouvez penser, Sepp Blatter et d'autres. Je veux pas Sepp, la FIFA, cette organisation à but non lucratif qui manipule des milliards. Rien n'a changé, on va le voir. Il avait la beauté ou le succès auprès des femmes de quelqu'un comme le super playboy que vous pouvez imaginer ou penser. Je ne sais pas si vous avez des noms qui viennent à l'esprit. Le plus bel acteur de cinéma. Il était beau comme George Clooney. Il avait du café fantastique. Il avait un quotient intellectuel, parce que Dieu lui avait donné cette sagesse, comme un Albert Einstein. Il avait la puissance militaire d'un président des États-Unis. Il avait tout pour être heureux. La sagesse que Dieu lui a donnée, c'était essentiellement une sagesse d'ordre pratique, une sagesse, comme on dirait, du monde. Pourquoi on peut dire ça? Parce qu'en fait, il n'a pas vécu avec la sagesse spirituelle que Dieu aurait voulu. Il a, par alliance avec d'autres états, il a eu jusqu'à 700 épouses. Je sais qu'il y a des cours de cure d'âme ou de conseils pour les couples pour que l'homme apprenne à communiquer avec sa femme et sa femme avec son mari davantage, que ce soit une communication riche, juste dans un couple, un homme avec une femme. Imaginez un homme avec 700 femmes. Chérie, toi tu prends un numéro, tu viendras dans 3 mois. C'est un peu comme les rendez-vous chez les spécialistes en médecine. Puis non seulement ça, il avait 700 femmes, mais pour faire bonne mesure, pour se détendre un peu, il avait aussi 300 concubines. Des femmes qui étaient destinées à ses plaisirs et pas à nécessairement fonder des familles. Donc, de toute évidence, la sagesse pratique qu'il a reçue, ce n'était pas une sagesse spirituelle. On sait que l'idéal pour Dieu, c'est un homme marié à une femme mariée à un homme. Tout autre schéma n'est pas de Dieu. Cet homme, on pense donc qu'il est aussi l'auteur de plus de 3000 proverbes. Le recueil des proverbes dans la Bible est en grande partie écrite par lui. Juste avant, il y a le chapitre 31 des proverbes qui est attribué au roi Lémuel. Certains pensent qu'en fait c'était son surnom, le surnom donné à Salomon. Et c'est intéressant parce que ce chapitre 31 qui termine le recueil des proverbes parle de la femme de valeur, une femme exceptionnelle, qui décrit les qualités que Salomon aurait dû rechercher dans une femme. Mais on voit qu'il a, par faiblesse, par vanité, désir d'apparaître plus qu'il n'était, il s'est égaré. Et donc on pense qu'il a aussi écrit le livre « Le Cantique des Cantiques ». Le Cantique des Cantiques qui est le plus bel ode à l'amour entre un homme et une femme dans le cadre d'un mariage, qui parle même de l'aspect physique d'une relation dans le mariage de façon très belle et très poétique, très riche, et qui nous montre qu'en fait, si le diable essaye de s'attacher à la notion de sexualité dans la race humaine, la sexualité, c'est une idée, c'est un don de Dieu. Il y a une intimité dans un couple qui connaît la relation charnelle, qui est une image de ce que Dieu veut avoir avec les hommes comme relation. Une relation fusionnelle, une relation de la plus grande intimité qui soit possible, qui soit imaginable. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église est comparée à une épouse et qu'à la fin des temps, il y a ce mariage des noces, il y a les noces de l'agneau avec son Église. Et donc cet Ecclésiaste, ce roi Salomon, le mot Ecclésiaste vient du mot latin Ecclésia qui désigne ceux qui sont appelés, c'est donc l'assemblée à qui le Coëlète s'adresse. L'Ecclésiaste, on pourrait traduire ça par le prédicateur ou le prêcheur ou celui qui parle à l'assemblée. Et d'entrée, c'est un bon prédicateur, il indique sa proposition. Un bon sermon, et ce n'est pas toujours le cas chez moi, doit avoir quelque chose que vous pouvez retenir en une seule phrase. Et là, pratiquement, et cette expression est bien connue en français, « vanité des vanités, tout est vanité ». Vanité des vanités, en hébreu, parler du cantique des cantiques, ça veut dire parler du plus beau des cantiques. Parler des esclaves des esclaves, c'est de parler des esclaves les plus bas qui soient. La vanité des vanités, c'est la plus grande des vanités. La vanité, qu'est-ce que ça veut dire? On a tendance à penser que la vanité, c'est être fier. Et c'est vrai que ça fait partie de la vanité. Le mot vanité veut simplement dire vide, ce qui est comme du vent, ce qui n'a pas de substance. Donc versets 2 et 3, que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Vous savez tous, vivre, c'est pas facile. Ça demande de l'énergie. Il y a des fois où ça va, tout va bien, et puis il y a des fois où on se traîne. La semaine dernière, j'ai eu un coup de pompe après pas mal d'activités. J'ai rempli mes impôts en ligne jusqu'à minuit moins le quart mardi soir. Et mercredi, j'étais fatigué, j'avais plus d'énergie. Ce qui normalement m'aurait pris quelques heures ou quelques minutes me prenait 4 fois, 5 fois, 6 fois le temps. Et dans ces cas-là, c'est presque mieux de dire je vais à la pêche ou je vais dormir et je verrai ces choses demain. Mais on sait que c'est. On se donne de la peine. Et puis. Il se dit, qu'est-ce qu'il vous reste après vous être donné toute cette peine, tous ces efforts? Et une expression qui revient souvent dans son texte, c'est l'expression de « sous le soleil ». Sous le soleil. Ça veut dire « ici-bas ». Ça ne veut pas dire « à Nice quand il fait beau » et pas à Paris quand il pleut. Non, sous le soleil, c'est une façon de dire, c'est quand on a le regard tourné vers nous-mêmes, vers la terre, vers les humains. Et on va voir, et je veux déjà vous rassurer, on va voir pendant 11 chapitres que la vie vécue sans égard pour Dieu, elle ne vaut rien. La vie vécue sous le soleil, elle est déprimante au maximum. Elle est déprimante de chez déprimant, on dirait. Mais, il y a sous le soleil, et il y a au-dessus du soleil. Et la vie qui se centre sur ce qui est au-dessus du soleil, sur Dieu, sur l'éternité, elle est fantastique. Donc je vais vous demander de la patience, ne perdez pas courage. On va voir pourquoi en fait la vie vécue sans Dieu ne vaut pas la peine d'être vécue. Et c'est la question de l'ecclésiaste, du prêcheur, c'est est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Et là, il va nous faire un contraste en nous disant, si vous la vivez sans penser que Dieu existe ou sans penser que Dieu est important pour vous, alors votre vie, elle est sans valeur. Par contre, si vous la vivez avec Dieu, pour Dieu, en reconnaissant que Dieu est important, pas juste le dimanche, pas juste quand vous venez à Pâques à l'église, mais tous les moments, tous les jours de votre vie, si vous avez cette conviction profonde, alors votre vie va être une vie pleine de sens, une vie pleine de richesses, pas nécessairement matérielle, peut-être matérielle, mais une vie qui va vous combler. Et ça, c'est le problème de notre société. Notre société a décidé que nous n'avions plus besoin de Dieu. que Dieu était une fabrication faite par des faibles pour les faibles ou par des forts pour opprimer les faibles. Toute variation a été utilisée pour rejeter Dieu. Ce qui est encore plus grave ou plus troublant, c'est que même parmi ceux qui reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe, pour tous ces catholiques non pratiquants et ces protestants libéraux, Dieu existe peut-être, mais je ne m'en soucie pas le moindre du monde. Et si c'est le cas, notre vie est vide de chez vide. Le roi Salomon savait de quoi il parlait. On pense qu'il l'a écrit à la fin de sa vie. Riche de toute son expérience d'un homme qui avait tout eu. La richesse, la beauté, les femmes, le succès, la paix, la puissance, l'argent. Il y a des descriptions de l'argent qu'on amenait par bateau, à cheval, parce qu'il exerçait une puissance où tous les États voisins devaient amener des tribus. L'argent, c'était rien, c'était tout, au moins de l'or, tout était en or. Et donc, si lui nous dit que toutes ces choses après lesquelles nous et nos contemporains nous courons, nous espérons, s'il nous dit que toutes ces choses sont sans valeur, on devrait pour le moins tendre l'oreille et écouter ce qu'il a à nous dire. Vanité des vanités, c'est une expression donc pour dire que la futilité de la vie est immense, sous-entendu lorsque elle est vécue seulement sous le soleil, lorsqu'elle n'est pas vécue en reconnaissant qu'il y a un Dieu qui est là, qui nous a créés pour qu'on le serve, qu'on vive avec lui. Et je disais, notre société a du sang à payer. Tous ces gens qui ont encouragé l'athéisme, tous ces gens qui continuent à, au nom de la laïcité, à repousser Dieu de la sphère publique, ce sont eux qui ôtent l'espoir à la majorité de nos contemporains. La France, le pays des Lumières, préférait qu'elle soit le pays de la lumière du monde, mais le pays des Lumières, c'est le pays d'Europe qui a le plus de suicides. Il y en a trois fois plus qu'en Espagne ou en Italie. Il y en a deux fois plus qu'en Grande-Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'en fait, dans la population globale en France, 4% des décès sont dus à des suicides. Chaque année, 4%. Maintenant, si vous prenez un sous-ensemble de cette population française, qui est constitué par le corps médical, ceux qui s'occupent de soigner les autres, c'est plus 4% de suicides comme source de décès, c'est 14%. 14%. Je n'ai pas les statistiques parce qu'elles ne sont pas publiées, mais aux États-Unis, ils ont affiné les statistiques, ils disent qu'en fait, tous ceux qui s'occupent de psychologie, de psychiatrie, c'est encore deux fois plus que parmi le corps médical. La sagesse de l'homme sans Dieu, c'est déprimant. C'est terrible. Ça ne laisse aucun espoir. Ce n'est pas moi qui le dis, on va voir. C'est le Qohélète, l'Ecclésiaste qui le dit. Rien ne change. Verset 4. Une génération s'en va, une génération vient. Et la terre subsiste toujours. Personne qui décède. Je crois qu'il y en a 6 000 par jour en France. 10 000 bébés qui naissent chaque jour en France. Quelqu'un disait que le mobilier le plus utilisé, c'est le berceau et le cercueil. Peut-être que vous n'aurez jamais de canapé dans votre vie, mais vous aurez tous eu un berceau, et j'espère tous un cercueil pour la dignité de votre enterrement. Les générations. On pense qu'on est là, surtout si on a moins de 20 ans. On pense, on dit, j'ai la vie devant moi. Et j'espère que c'est le cas, qu'il y a, vous avez encore de nombreuses années à vivre. Mais la réalité, c'est qu'à même une vie de 80, même une vie de 100 ans, c'est très court. J'étais toujours frappé. On voit dans certains endroits à Nice des photos de Nice au début du 19e siècle. Il y avait encore des chevaux, il y avait encore des tramways tirés par des chevaux. Et puis on voit toute la foule qui se presse sur la promenade des Anglais ou sur le boulevard Jean Médecin. À l'époque, ça s'appelait le boulevard de la Victoire, et puis je ne sais plus le nom avant. On verra qu'on oublie rapidement. Et je me disais, et je sortais et je me retrouvais dans les mêmes lieux. Il n'y avait peut-être pas exactement les mêmes devantures, les mêmes magasins, mais les mêmes perspectives. Ça prend plus de temps à changer les bâtiments, les rues, les angles des rues. Et je me disais, cette photo, elle me dit que si je prends une photo maintenant, dans 50 ans, elle sera comparable à cette photo où tout le monde est déjà décédé. Où serons-nous dans 50 ans ? Moi, je sais, je ne serai plus là. J'espère que la plupart d'entre vous, vous serez là. Mais la génération sera partie. La génération sera partie. Par contre, la Terre, pour l'instant, à notre échelle, elle subsiste, elle demeure. D'autant que chaque année, chaque découverte scientifique, elle devient de plus en plus vieille. Quand j'étais jeune, on disait qu'elle avait 5 millions d'âges. D'âge. Maintenant, on me dit qu'elle en a 10 ou plus, je ne sais pas, et je vous assure que ça ne fait pas 5 millions d'années que je vis. La Terre subsiste à toujours. La Terre ne change pas, verset 5, le Soleil ne change pas. Alors je sais, astronomiquement, le Soleil brûle l'hélium, il va disparaître à l'échelle astronomique, mais pour l'homme qui vit sous le soleil, il le voit se lever, il le voit se coucher, et il se dit que le soleil, en fait, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Il y a cette permanence, cette régularité, et Dieu merci, ça ne change pas. Il y a aussi le vent. Le vent qu'on ne voit pas, mais dont on peut voir les effets. Jésus-Christ a pris cet exemple lorsqu'il parlait à Nicodème pour parler de l'Esprit-Saint et du fait que tout ce qui est n'est pas nécessairement visible, mais il y a un circuit des vents, ils vont vers le sud, ils tournent vers le nord, ils tournent, et il dit qu'il reprend ses circuits. C'est intéressant aussi, ce livre, je vous l'ai dit, il a été écrit il y a près de 3000 ans, mais il donne déjà des indications que la science a vérifiées. Alors, certains vont dire, mais on sait que le soleil ne se lève pas, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre qui tourne autour du soleil. Mais aujourd'hui, Désolé, mais aujourd'hui encore, on utilise le même langage. On dit « lever du soleil demain matin à 6h30 ». On a découvert qu'il y avait des circuits de vent, qu'il y avait des alizés, qu'il y avait des basses pressions, typiquement avec la chaleur, on arrive à comprendre un peu mieux la météo aujourd'hui. Mais ce sont des choses qui existent. La terre ne change pas, le soleil, le vent et la mer ne changent pas. Il y a le circuit de l'eau qui est décrit, tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Là aussi, il a fallu que la science avance pour comprendre qu'il y avait une évaporation de l'eau à la surface de la mer qui faisait des nuages, qui se condensaient, qui retombaient sous forme de pluie, qui, en fonction du relief, alimentaient des petits ruisseaux qui se jetaient dans des rivières et qui faisaient des fleuves. Et cette vérité scientifique, elle nous montre aussi, et là aussi, Dieu merci, qu'il y a une stabilité, mais il n'y a pas de changement. Alors là, maintenant, on nous dit c'est faux, maintenant c'est le réchauffement climatique. On sait, en regardant l'histoire, qu'il y en a eu d'autres, et que ça fait partie de tous ces phénomènes. On les comprend mal à petite échelle, mais Dieu n'est pas surpris. Mais pour nous, rien ne change. Rien n'est nouveau. Versets 8 à 11. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire, l'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. On aspire à de nouvelles choses. Que ce soit dans le domaine de ce que l'œil voit, de ce que l'oreille entend. Il nous est donné aussi d'être fatigués par tout ce que nous faisons. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. On se lasse des choses. Et on a cette illusion qu'on vit dans le changement. Le changement, c'est maintenant. Avec moi, tout va changer. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, dit le prédicateur. L'homme veut toujours de la nouveauté. Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui dans une époque où la technologie entretient ce fantasme, ou cette idée qu'on est de plus en plus fort. On assiste, et j'en suis heureux moi-même, à une révolution technologique. On a découvert les ordinateurs, puis ils sont devenus portables, et puis maintenant on les a dans notre poche. Il faut les recharger tous les jours. Le cycle. On n'a pas encore trouvé l'ordinateur qui se recharge tout seul, et on y travaille. Et puis on veut toujours voir des nouvelles choses. C'est beau, Nice, non ? Des gens qui viennent de loin pour visiter et apprécier. Mais au bout d'un moment, nous qui habitons là à longueur d'année, on dit on aimerait bien aller en Suisse ou en Allemagne, voir des jolis paysages, des choses nouvelles. C'est l'industrie du tourisme qui est basée là-dessus. Si les gens se contentaient d'être bien chez eux, il n'y aurait plus de compagnies low cost, il n'y aurait probablement pas la même industrie aéronautique. Et puis, l'œil ne se rassasie pas de voir. Semaine dernière, on est allé voir l'épiphénomène du Festival de Cannes. On veut toujours des nouveaux films. J'ai une cassette des Canons de Navarone. Je me suis dit, j'aimais bien ce film. On me l'a donné, j'ai dit, je reverrai. Je ne l'ai jamais revu parce que je veux voir quelque chose de nouveau. Un scénario plus palpitant, des effets spéciaux plus impressionnants. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Maintenant, avec Internet, on a accès aux nouveautés musicales. Les dernières créations, derniers styles de musique. Mais le monde ne propose rien de neuf, versets 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau? Si on vous dit ça, vous savez qu'en fait, elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. Souvent, dans un nouveau style musical, c'est un retour à des rythmes antiques, à des sonorités qui existent depuis des siècles ou qui ont été un peu oubliées. J'ai un très bon ami qui prend des cours pour jouer de la vielle moyenâgeuse. C'est vrai que c'est des sons intéressants, quoi, mais c'est pas nouveau. Il le sait et il l'assume, mais on veut toujours quelque chose de neuf. C'est le moteur de notre économie. Les soldes pour l'été. Est-ce que vous avez déjà acheté vos t-shirts ou vos vêtements neufs pour l'été? Même au niveau de la société, on a instauré le mariage pour tous. Et ceux qui sont en faveur de cette politique ou cette évolution des choses pensent qu'ils ont fait du neuf. Mais il suffit de voir comment l'Empire romain s'est effondré pour voir que ces choses-là existaient déjà. Que les empereurs romains avaient avec eux pas plus des femmes, mais des éphèbes, des jeunes hommes. Tout ce qu'on croit nouveau et révolutionnaire sous le soleil, c'est du ressassé, du remâché. Et pourquoi est-ce qu'on croit que ces choses sont nouvelles? Verset 11, c'est parce qu'on n'a point souvenir du passé. Ce qui ira et de ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. On se souvient peu de ce qui s'est passé. On s'enthousiasme pour des choses que nous aurons oubliées dans quelques années. Qui a gagné la Coupe de France en foot en 2009? Guingamp. Ils l'ont gagné aussi en 2014. Peut-être ça vous en souveniez parce que c'est plus récent. Qui a gagné Roland-Garros en 2014? Nadal. C'est facile avec lui parce que 2005 à 2014, il a gagné, sauf en 2009. Où c'est qui? Federer. Mais ce qu'il a gagné en l'an 2000, Roland-Garros? Pourtant, il était vachement sympa. Gustavo Kuerten, le Brésilien, deux fois de suite. On est là à regarder le tournoi de Roland-Garros, c'est fantastique, c'est quelle émotion. Et 5 ans plus tard, sauf si c'est Nadal, parce que c'est facile de se rappeler de lui, on a oublié. Et on n'est pas des, pour la plupart d'entre nous, je ne crois pas qu'on soit des grands tennisman, mais on va investir toute une vie pour être connu dans un domaine. Et je suis au regret de vous dire que quelques années après votre décès, vous serez complètement oublié. Je serai complètement oublié. Vous avez dit que ça allait être dur comme étude. Alors, il y en a qui s'en trouvent très bien, moi je ne veux pas être connu, mais il y en a beaucoup, l'idée d'être oublié de la mémoire collective, ça les affole au point de, ils vivent toute leur vie pour être célèbres, pour réussir en politique, pour réussir au cinéma, pour être prix Nobel de littérature. Et en fait, quand on pense à l'histoire de l'humanité, les milliards de personnes qui se sont succédées sur cette terre sous le soleil et la pluie, combien sont célèbres vraiment? 100, 200 peut-être? C'est illusoire que de placer sa raison de vivre dans le fait d'être connu pour toujours. J'allais faire l'exemple avec la Palme d'Or à Cannes, mais je me rappelle déjà plus du film de cette année. Rien n'est nouveau. Et puis, versets 12 à 18, rien n'est compris. Moi, l'Ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem, c'est le verset 12. Et puis, il nous dit, il répète, il signe, il persiste. J'ai pris cœur de rechercher, d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Cet homme qui avait tout pouvoir, toute ressource, s'est dit, je sais ce qui va donner un sens à ma vie, c'est de comprendre l'existence, de voir comment fonctionnent les choses. J'ai déjà partagé que quand j'étais gosse, je m'étais dit que j'utiliserais jamais un appareil sans comprendre son fonctionnement. Ça allait quand c'était un presse-purée. Un poste à galène, c'était des petits postes qu'on pouvait fabriquer avec une pierre qui laissait passer des ondes dans un certain sens. On arrivait un peu à comprendre, mais j'ai vite abandonné cette idée quand j'ai voulu regarder la télé. On peut comprendre des principes, mais d'imaginer qu'on peut comprendre, on n'est pas capable de tout comprendre. Il dit qu'il a... Il a pris à cœur de rechercher. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi de faire des efforts pour essayer de comprendre la recherche scientifique, d'explorer, de voir autour de soi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, en utilisant la sagesse que Dieu lui avait donnée, cette sagesse pratique. Et ils disent, en fait, c'est une tâche qui décourage, c'est un souci fâcheux, c'est une expression pas très bien traduite en français moderne, je ne sais pas si vous avez des versions plus récentes, c'est une peine douloureuse ou une peine qui décourage que d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Il ajoute même, Dieu donne ce sentiment, ce désir de recherche comme un moyen d'humiliation. Alors Dieu merci, il nous laisse découvrir beaucoup de choses. Il a donné aux hommes l'intelligence, les ressources qui, utilisées, conduisent à avancer la recherche. Mais on bute toujours sur les questions fondamentales. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? La science n'a pas de réponse à ces questions. Et j'évoquais tout à l'heure le taux de suicide des professions de psychologie, de parapsychologie, de psychiatrie, où le taux de décès est près de 6 fois ou 10 fois ce qu'il est dans la population normale. C'est parce qu'on ne trouve pas de raison à beaucoup de choses. Et tout spécialement dans le domaine de l'esprit, de l'intelligence, dans le domaine psychologique. Alors, certes, il y a des choses dont on peut se réjouir, il y a des méthodes, il y a des traitements, il y a des processus qui ont été compris, des déséquilibres chimiques qui peuvent être corrigés. Mais on voit rapidement les limites de ces choses. Et les chercheurs qui essayent d'expliquer l'univers, on est, avec tout le respect qu'on peut leur montrer pour leur capacité intellectuelle, des fois on est surpris par la simplicité enfantine ou l'ignorance enfantine de certains phénomènes. Quand on entend les grands astrophysiciens qui essayent d'expliquer la forme de l'univers et les théories qui se bousculent, il y en a qui parlent d'un gros cactus sur lequel il y a des branches, des mondes qui se... Mais on voit en fait qu'ils sont, comme dit l'Ecclésiaste, ils sont en train d'essayer d'attraper du vent. Encore une fois, c'est bien de rechercher, c'est bien de trouver, mais la plupart du temps, Dieu nous donne ça comme une façon de dire « Dieu, tu es plus grand que moi. Dieu, tu as créé un univers qui fonctionne, tu as créé l'homme. » Tu as créé le monde, mais je ne comprends pas. La vie est dure, mais c'est quand même un cadeau de Dieu. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Il avait accès, il pouvait... aller voir les réalisations techniques, il pouvait aller voir les ouvrages de littérature qui avaient été écrits, il pouvait aller voir les médecins qui travaillaient à l'époque. Et tout est vanité et poursuite du vent. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper du vent. C'est quelque chose de très frustrant. Verset 15, ce qui est courbé ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être porté au compte. Tout ne peut pas être corrigé. Tout ne peut pas être réparé, même si on est très heureux de réparer des choses, Mais il y a des choses qu'on ne peut pas redresser. Les ressources qui ne sont pas là, on ne peut pas les inventer ou les faire venir, arriver comme ça. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être porté au compte. J'ai dit en mon cœur, ainsi moi j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem. et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Il savait qu'il avait eu ce don de sagesse de Dieu, qu'il avait accompagné d'autres dons. Et il avait vu beaucoup de sagesse et de science à son époque. Aujourd'hui, c'est une des avancées dont on peut se réjouir, c'est que à tous, nous pouvons avoir accès à beaucoup de sagesse et de science. Tous les livres qui vous aident à vivre votre vie, comment élever des enfants, de façon à ce qu'ils soient heureux, comment gérer son entreprise, comment se maintenir en bonne santé, comment bien manger. Tous ces livres-là, ces ouvrages, c'est disponible en ligne. On a accès à la plus grande bibliothèque du monde qui soit. Ça s'appelle Google, Wikipédia, et on l'a dans la poche. Waouh ! On penserait que nos problèmes sont réglés, que le bonheur est là pour durer. Plus ça change et plus c'est la même chose. On en revient à voir des gens qui meurent en quittant la persécution sur des radeaux de fortune ou des bateaux de fortune. On voit la haine, on voit le racisme, on voit l'antisémitisme, on voit l'orgueil en politique, on voit la corruption. Et j'avais pas connaissance de ce qui se passe à la FIFA à l'époque, quand j'ai préparé ce message. On voit que malgré des progrès technologiques certains, des progrès scientifiques, le cœur de l'homme ne change pas. On pensait qu'avec la Deuxième Guerre mondiale terminée, les horreurs des génocides étaient derrière nous. On voit maintenant le Moyen-Orient à feu et à sang, des gens qui sont exécutés de la façon la plus brutale, la plus ignoble, pour leur foi, pour leur croyance, leur conviction. L'Ecclésiaste, il est brutal parce qu'il est honnête. On n'a pas tellement envie d'entendre ce message. Puis il ajoute pour terminer, et j'ai pris à cœur, verset 17, de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. Donc il a essayé de faire la part des choses entre ce qui participe de ce qui est bien, de la sagesse, de ce qui est logique, de ce qui fait du sens. À toutes ces choses qui n'ont aucun sens, à la folie, folie meurtrière, on en parlait aujourd'hui, à la démence. Donc il s'était dit, au moins je vais essayer de séparer les choses, et puis il dit, même essayer de faire la part des choses, c'est encore quelque chose de très frustrant, c'est comme poursuivre le vent. Puis il ajoute quelque chose qui rejoint cette statistique de suicide élevée chez les personnes qui essayent d'encourager les autres, leurs semblables, sans aucune référence à Dieu, seulement avec la sagesse humaine sous le soleil. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Et plus on a de science, et plus on a de tourments. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, est mort un des plus beaux esprits de mathématiques, celui qui a fondé la théorie des jeux en mathématiques, John Nash, Il y a un très beau film qui a été un ancien film c'était quelqu'un d'hyper brillant par certains côtés, mais qui était touché par la folie de l'autre. Il avait beaucoup de science et beaucoup de tourments. Et on va voir dans les chapitres à venir, et encore une fois, je vous demande de ne pas prendre cela comme étant la vérité sur la vie. C'est la vérité sur la vie sous le soleil, c'est-à-dire sans Dieu, ou même avec Dieu, mais sans donner d'importance à Dieu, à ce qu'il veut pour votre vie, à ce qu'il est là pour pourvoir à vos besoins, à ce qu'il répond à vos prières, que vous pouvez lui demander des miracles, il est capable, il veut vous bénir. Il va continuer, et on va continuer avec lui, mais sachez que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a 12 chapitres dans ce livre, et il va falloir malheureusement arriver au chapitre 12. Si vous ne pouvez pas écouter ce chapitre 12 en étant présent ici, je vous inviterai à suivre l'étude peut-être sur Internet. Mais il est vital que vous n'arrêtiez pas avant le chapitre 12. En fait, on va voir qu'il y a des éléments tout au long de ces chapitres quand même qui devraient vous rassurer que si la vie n'a aucun sens, si elle est vécue en dehors de Dieu, elle a un sens fantastique, un sens d'une grande richesse. Dieu fait de la nouveauté. Dieu fait des choses nouvelles. Si on regarde dans la parole, il nous donne un nouveau nom. Ésaïe 62:2 et Apocalypse 2:17. Il nous donne une nouvelle communauté, l'Église. Il nous donne même de l'aide nouvelle de ses anges, psaume 91. Il nous donne un nouveau commandement. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Il nous donne une nouvelle alliance. Jérémie 31:33, Matthieu 26:28. Une nouvelle alliance en son sang. Il nous donne un chemin nouveau et vivant pour aller au ciel. Ça, c'est Hébreux 10:20. Il fait une pâte nouvelle pour purifier le vieux levain du péché, c'est 1 Corinthiens 5:7. Il nous donne une nouvelle nature. Éphésiens 4:24 en parle, mais le passage très connu, c'est 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, verset 5 du chapitre 21, celui qui était assis sur le trône, c'était Dieu le Père et Dieu le Fils, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il nous donne un nouveau chant. C'est une expression qui revient dans les psaumes, psaume 43, 96, 1, 98, 1. Il y a de l'espoir. Si votre vie n'est pas seulement vécue sous le soleil, mais qu'elle tourne les yeux au-dessus du soleil. Et c'est vrai que quand on prend l'avion, on voit la terre qui s'éloigne, les bâtiments, d'abord les personnes qui deviennent de plus en plus petites. Le Negresco est déjà plus si grand quand on décolle du bon côté. Les gens deviennent tout petits. On s'élève. On, S'il fait gris, on se retrouve au-dessus des nuages, on voit le soleil, ça va déjà mieux, mais nous ne nous arrêtons pas là. Tournons nos cœurs vers Dieu. Et encore une fois, on voit les problèmes sur la terre parce que l'homme a décidé qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Dans son orgueil, qui n'est pas nouveau, il a commencé au tout début de l'histoire de l'humanité, mais Dieu a un message d'espoir et d'assurance que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce livre surprenant, ce livre qui veut nous décourager de vivre une vie sans égard pour toi, Seigneur. Et Seigneur, nous qui avons commencé à nous tourner vers toi, on n'a jamais fini, Seigneur, de marcher avec toi toujours plus proche, de vivre pour les choses qui comptent. Seigneur, nous savons que c'est vrai, Seigneur. Nous voyons la futilité des choses humaines. Nous nous donnons tellement pour des choses qui sont vite oubliées, des choses qui sont vite laissées derrière. Et tu veux nous interpeller aujourd'hui, Seigneur, et dans les semaines à venir, avec ce message de ce que la vie vécue sans toi, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais que la vie, tu nous l'as donnée non pas pour la vivre en te rejetant, mais pour la vivre en communion avec toi, Seigneur. Je prie que tu parles à ceux qui peut-être sont surpris par ce message, qui disent que c'est le message le plus déprimant qu'ils ont jamais entendu. Seigneur, merci parce que nous avons besoin de ces messages de vérité. Combien nous en sommes convaincus, nous irions mieux politiquement, économiquement, si les hommes politiques avaient le courage de nous dire la vérité, Seigneur. Toi, tu nous l'as dit et nous t'en remercions. Aide-nous à comprendre cette vérité, à comprendre que la vérité, elle est dans ta parole. Ta parole est vérité, Seigneur. Nous pouvons fonder notre vie sur elle. Pas seulement ces quelques dizaines d'années que nous pouvons vivre ici-bas, sous le soleil, mais cette vie éternelle qui nous attend avec ou séparée de toi. Seigneur, continue de parler au cœur et donne-nous de ne pas être désespérés par ces vérités, Seigneur, mais de comprendre que tu nous parles la vérité pour que nous nous tournions vers toi, Seigneur. Toi qui es le père du fils prodigue qui attend son enfant qui s'est éloigné de lui et qui veut le bénir, qui veut lui faire la fête, Seigneur. Te remercions pour ton amour, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.